écoutez Fréquence Mistral 99.3 et nous recevons aujourd'hui dans notre studio François Petitpré de la coopérative énergétique 04. Bonjour François.
Bonjour Tiffany.
Bienvenue dans le studio. On se voit après une petite série de chroniques sur énergétique 04. Vous êtes le directeur de la coopérative. Est-ce que vous voulez nous rappeler un petit peu les missions d'énergétique 04?
Oui, alors énergétique 04, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui est basée à Digne-les-Bains. Donc en fait, c'est une société, mais une coopérative, parce qu'en fait, chez nous, quand on prend une décision, c'est un associé égale une voix. Hein. Tout le monde peut avoir une part dans la coopérative, c'est ouvert à tous, et donc il suffit d'avoir une part pour pouvoir exprimer sa voix et participer aux décisions. Et donc énergétique 04, c'est une coopérative qui a été créée dans l'objectif de se réapproprier la question de l'énergie au niveau des citoyens. Donc c'est favoriser l'implication citoyenne dans la transition énergétique, pour être exact. Et donc ça se décline en trois missions. Donc nous, en fait, on développe et on exploite des centrales photovoltaïques qui sont financées sur le mode du financement participatif. On travaille également pour favoriser la maîtrise de l'énergie. Donc on a tout un tas d'actions voilà, autour de la rénovation, de la sensibilisation à la maîtrise des consommations d'énergie. Et pour terminer, la dernière mission, c'est l'organisation, enfin du moins on participe à l'organisation de la solidarité énergétique au niveau du département. Et il s'agit en fait de lutte contre la précarité énergétique dans le logement au niveau des Alpes-de-Provence.
Alors la précarité énergétique, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il y a une différence avec la solidarité énergétique par exemple?
Alors la précarité énergétique en fait c'est un terme qui est assez vague effectivement. Il y a une définition un petit peu officielle qui existe hein, de la précarité énergétique. En fait on dit qu'un ménage est en situation de précarité énergétique quand le budget énergie représente 10% du budget global du ménage, 10% ou plus. Donc en gros, il y a un peu l'idée de taux d'effort énergétique, c'est-à-dire quand vraiment la part des dépenses d'énergie, elle prend une part importante des dépenses et donc pèse sur le budget du ménage. Alors moi, j'aime pas trop cette définition parce qu'en fait, le problème de cette définition, c'est qu'elle laisse de côté toute une partie de la population qui, elle aussi, est en précarité énergétique. En fait, c'est des gens en fait qui vont renoncer à leur confort, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de se chauffer, ils vont utiliser moins d'eau, par exemple. Enfin voilà, bref, ils vont être en situation de restriction et du coup, forcément, ils vont rester en dessous de cette barrière des 10%. Mais pour autant, ces gens-là, ils sont aussi en situation de précarité. Et donc, on a vraiment ces deux types de réactions. Des gens qui vont dépenser trop quelque part et qui du coup vont se retrouver en difficulté financière. Et on a aussi une partie des gens qui vont plutôt renoncer à leur confort et être dans ce qu'on appelle une situation de restriction. Alors, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que la précarité énergétique, c'est un phénomène qui est quand même extrêmement complexe. Il y a un schéma qui est assez connu dans le milieu forcément des gens qui s'occupent de précarité énergétique, c'est ce qu'on appelle la spirale de la précarité énergétique. En fait, c'est un schéma qui a une forme de spirale comme ça. On montre donc d'un côté de la spirale par les causes un petit peu qui viennent créer cette situation de précarité. Donc ce que ça les principales causes qu'on va retenir, c'est généralement déjà un logement qui est peu efficace, donc un logement dans lequel il faut mettre beaucoup d'énergie pour chauffer parce qu'il est mal isolé, etc. Il y a également le niveau de ressources du ménage, hein, c'est-à-dire que un ménage qui a des revenus importants, même s'il est dans un appartement peu efficace, il va s'en sortir, alors que forcément si on met un ménage qui a peu de moyens dans un appartement qui est très énergivore, lui, il va avoir beaucoup plus de difficultés. Et à partir de là, c'est un petit peu la... justement, on entre dans cette spirale de la précarité, et puis après, on va avoir une espèce de cercle vicieux qui va passer soit justement par une situation d'impayé, donc une détresse psychologique, soit une privation, et donc à partir de là, on va avoir une situation où on a froid dans son logement, on va peut-être avoir une accumulation d'humidité, ce qui peut conduire à des problématiques de santé. Dans tous les cas, vu qu'il y a un manque de moyens, on va avoir aussi un défaut d'entretien du logement, c'est-à-dire que quand la situation s'installe sur plusieurs années, à force de pas faire les petits travaux d'entretien du logement, on va aussi avoir des dégradations qui conduisent à une situation qui s'empire, on va voir apparaître des problématiques de santé et tout ça peut aller très très loin jusqu'à un désinvestissement total dans le logement, une situation de détresse psychologique qui est très importante. Et donc c'est là où on se rend compte en fait que les situations de précarité énergétique c'est quelque chose qui est très très complexe parce qu'on voit qu'il y a tout un tas de facteurs en fait qui vont venir provoquer et aggraver ces situations-là. Et en fait, ces situations de précarité, elles sont généralement à la croisée de problématiques techniques liées au logement, de problématiques sociales qui sont liées à la situation socio-économique du ménage, et également de problématiques qui sont beaucoup plus personnelles. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport que moi j'ai avec l'énergie? C'est quoi ma définition du confort? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien chez moi? Et à quoi je suis prêt à renoncer? Sur quoi je suis prêt à faire des efforts sans pour autant me mettre dans une situation de détresse psychologique? Et donc tout ça fait qu'on a des situations qui sont extrêmement compliquées et qui surtout sont à chaque fois très particulières. Et en fait, pour intervenir auprès de ces situations de précarité énergétique, ce qui est vraiment essentiel, eh ben, c'est d'intervenir de manière personnalisée auprès de chacun de ces ménages pour bien prendre en compte chacune des composantes de chaque situation. Voilà. Et chaque situation est vraiment très particulière.
Et est-ce que ce sont les foyers en question qui viennent vers vous? Est-ce que c'est vous qui repérez ces situations? C'est facile d'identifier une situation de précarité ou c'est compliqué?
Alors non, effectivement, hein, c'est souvent assez difficile. Alors bon, bien évidemment, il y a certaines personnes qui vont d'elles-mêmes se signaler et qui vont... du coup, ces personnes-là, généralement, on va les repérer assez facilement. Mais ces situations de précarité, elles sont effectivement aussi très, très, très régulièrement associées à un sentiment de honte et de gêne qui peut être très, très fort. Quand on habite dans un logement dégradé, souvent, on a un peu honte de recevoir les gens et puis on n'aime pas trop en parler, donc Et ça va notamment concerner beaucoup les personnes qui se mettent en situation de privation, que généralement on va avoir beaucoup de difficultés à repérer. Nous, ceux qu'on repère le plus facilement, en fait, c'est les personnes qui sont en situation d'impayé. Parce qu'en fait, les personnes qui sont en situation d'impayé, elles ont plus tendance à aller chercher de l'aide auprès des services sociaux. Et du coup, comme nous, on travaille beaucoup avec les services sociaux, ces personnes-là, on les repère par ce biais-là. Mais c'est vrai que les personnes qui se mettent en situation de privation et qui, du coup, ne demandent pas d'aide, c'est un petit peu compliqué de les repérer. Il y a également un autre sentiment qui, selon moi, conduit à cette difficulté de repérer ces situations. C'est le fait que les gens se sentent très démunis, en fait, face à ces situations-là. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui renoncent à toute idée d'amélioration de leur situation. En fait, ils se disent tout simplement qu'il n'y a pas d'issue, qu'ils voient passer un peu le train de la rénovation énergétique et de tout ce qu'on parle autour du logement. Les financements pour faire des travaux, monter des dossiers, participer à une OPA, etc. Ça va être facile. Et en fait, eux, ils se sentent complètement démunis par rapport à ça, soit parce qu'ils sont un peu loin des démarches administratives, soit parce que, quand ça fait 20 ans qu'on vit avec des tout petits moyens, on se dit, faire un chantier d'isolation sur ma maison, c'est juste pas pour moi. Et donc, il y a cette espèce un petit peu de fatalisme, de sentiment d'exclusion qui fait que on n'y croit pas et du coup, on va pas chercher à améliorer la situation. Voilà, ce qu'il faut bien voir aussi, donc ça, c'est un dernier point qu'on retrouve un petit peu partout en France, mais qui est quand même particulièrement vrai aussi dans les Alpes-de-Provence, c'est qu'on est aussi dans une situation où le marché du logement est très tendu, c'est-à-dire qu'on a un gros déficit de logement. C'est pas facile de se loger, en fait, particulièrement quand on cherche un T2, un T3, quand on est jeune, quand on n'a pas trop de moyens, ça peut parfois faire très très peur. Et nous, on est très souvent confrontés à des gens pour qui le logement, c'est vraiment un espace de sécurité. Ils sont un peu terrorisés à l'idée de perdre ce logement. Et par exemple, notamment quand on est un locataire, on va accepter de vivre dans un logement qui est dégradé, on va pas forcément aller solliciter le propriétaire pour faire respecter ses droits. Et du coup, on a tendance un petit peu à cacher cette situation par crainte de perdre son logement. Voilà. Et donc tout ça fait que effectivement, c'est parfois assez difficile de repérer ces situations. Alors après, moi, si j'ai un message à faire passer là-dessus, c'est de bien comprendre qu'en fait, la précarité énergétique, aujourd'hui, elle touche de plus en plus de personnes. Il y a quelques années, on parlait de 15% des ménages en situation de précarité. Aujourd'hui, avec l'augmentation du prix des énergies, l'inflation, donc la diminution du pouvoir d'achat, toutes ces tendances-là font que la proportion de personnes qui sont en difficulté dans leur logement, elle a tendance à augmenter avec le temps. Ça touche énormément de gens. Et en fait, il faut bien comprendre que si ce sentiment de gêne, il est naturel, en fait, c'est parce qu'on n'a pas conscience qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation-là. Et en fait, il faut pas hésiter, je pense, à demander de l'aide parce qu'en fait, ça peut toucher tout le monde. Et il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour sortir de ces situations-là. Dans la loi, il y a tout un ensemble de critères qui définissent ce que c'est un logement décent. Hein, donc voilà, il y a des décrets, il y a des arrêtés. Et aujourd'hui, par exemple, on n'a pas le droit, un propriétaire bailleur n'a pas le droit de mettre un logement à la location s'il ne respecte pas un certain nombre de critères. On parle de critères de décence du logement. Et donc, quand on est un locataire, en fait, donc on signe un bail avec le propriétaire. Donc ce bail, c'est un contrat. Et dans les termes du contrat, le propriétaire a des devoirs, bon, le locataire aussi bien sûr a des devoirs, il doit assurer l'entretien du logement, il doit payer son loyer, mais le propriétaire en contrepartie, il a aussi des devoirs, donc il doit mettre à disposition un logement qui vérifie les critères de décence. Si les critères de décence ne sont pas respectés, c'est un manquement au contrat, et donc à partir de là, il y a des leviers qui permettent de réagir dans ce type de situation, et il y a des institutions qui sont là pour permettre aux locataires de faire respecter leurs droits. Alors, sans parler forcément d'aller directement en conflit avec son propriétaire, mais on peut mettre en place des médiations. Nous, par exemple, on travaille avec des partenaires comme l'ADIL 0405, qui est une association qui fait du conseil en droit du logement, qui fait aussi de la médiation extrajudiciaire. Et donc, on peut avoir des actions comme de l'information aux droits et devoirs des locataires. Après, voilà, les propriétaires ne sont pas toujours de mauvaise foi. C'est juste qu'il y a des propriétaires qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas conscients de la dégradation de leur logement. Donc après, voilà, des fois, juste avec une discussion, ça permet de résoudre certaines situations voilà, de manière assez simple. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à aller solliciter de l'aide auprès des personnes et des organismes qui sont compétents.
Et comment on en arrive à une situation de précarité? Parce qu'on pourrait avoir tendance à penser que c'est un donné, c'est une fatalité, on est dans une situation précaire, mais j'imagine qu'il peut y avoir des cas de glissement vers une situation qui devient précaire mais qui ne l'était pas précédemment.
Oui, effectivement, hein, ça peut être quelque chose qui est finalement assez insidieux. Bon, à la base, on a toujours une situation financière qui est un petit peu tendue, on va dire. Hein. Je veux dire, voilà, on parle quand même d'une partie de la population qui n'a pas non plus des revenus très important. Et du coup, quand la situation elle est un petit peu tendue, ben forcément on va avoir tendance, ben, voilà, soit à avoir peur de pas retrouver un logement si jamais celui qu'on a il convient pas, soit dans le cas des propriétaires, ben, pas trop entretenir le logement, et donc du coup on va avoir une dégradation progressive du logement. Donc bon, voilà, il y a toujours un peu cette situation de faibles ressources, hein, à l'origine. Progressivement, on a une situation qui va s'installer avec des désordres qui s'ajoute au désordre qui existait déjà avant, et donc on va avoir des petites dégradations comme ça qui vont s'accumuler et qui vont conduire à un moment ça va devenir vraiment très compliqué. Et après on a aussi la problématique des accidents de parcours, on va dire. Voilà, je peux prendre plusieurs exemples. Hein. Ça peut être, par exemple, un couple qui se sépare. Et donc, du coup, on va se retrouver dans une situation où, d'un coup, on a une chute brutale des revenus de la personne qui reste dans le logement et qui va plus être capable de faire face aux dépenses d'énergie, qui va peut-être... quand c'est principalement un des deux membres du couple qui s'occupait de faire l'entretien et que c'est lui qui s'en va et qu'on se retrouve, tout seul, qu'on n'a pas trop de compétences en petit bricolage, ce genre de choses, on peut être un peu en difficulté. Autre exemple qu'on pourrait évoquer, qu'on voit assez régulièrement, c'est des gens qui prennent leur retraite. Et souvent, la retraite, c'est associé à une diminution des ressources, hein, parce que quand on passe à la retraite, forcément, on a moins de revenus qu'avant. D'un coup, je veux dire, toutes ces charges qu'on arrivait à assumer quand on avait un emploi et qu'on avait un revenu d'activité, quand on passe à la retraite, la diminution des ressources fait que finalement, on n'arrive plus à boucler le budget. Du coup, on se retrouve en difficulté dans son logement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on passe à la retraite, généralement, on passe plus de temps chez soi. Donc, ça veut dire plus de chauffage, ça veut dire plus d'énergie à la maison, et donc des dépenses en plus. Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut aussi anticiper. C'est des choses qui se préparent, en fait. Hein. Un dernier exemple pour bien illustrer aussi comment est-ce qu'on peut en arriver là, c'est des personnes qui avec l'âge, vont perdre un petit peu en autonomie, peuvent se retrouver en difficulté dans leur logement. Nous, un exemple qu'on voit très souvent, c'est des gens qui chauffent au bois. Parce que quand on chauffe au bois, alors le bois, c'est très bien, hein, je veux dire, c'est une énergie qui est écologique, qui est relativement pas chère. Même si le bois aussi a tendance à augmenter, mais ça reste quand même une énergie qui permet de se chauffer en préservant son budget. Sauf que pour se chauffer au bois, il faut mettre les bûches. Et les bûches, ça, ça pèse lourd. Et quand on est une personne voilà qui prend de l'âge, et ben des fois porter le bois, ben c'est quand même un effort qui est assez conséquent. Et nous, ça nous arrive quand même assez régulièrement d'intervenir chez des personnes qui voilà arrivées à 70, 75, 80 ans, nous disent bah moi avant je me chauffais au bois, mais j'arrive plus à porter les bûches. Alors du coup maintenant je dois me chauffer à l'électricité. Et forcément, ben là le budget chauffage il explose et on se retrouve dans une situation où finalement on peut plus assumer les charges. Et donc, c'est des gens qui vont avoir froid chez eux, etc. Voilà, donc il y a tout un ensemble de parcours, tout un ensemble de difficultés qui peuvent effectivement amener à une situation de précarité. Mais pour résumer un petit peu tout ça, moi, je pense qu'il faut être bien conscient qu'en fait, ça peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation. Et en fait, tous comme on est, on pourrait un jour se retrouver dans ces situations-là parce qu'en fait... Il y a tout un ensemble de difficultés de parcours qui peuvent amener à ces situations-là, quoi.
Et alors, qu'est-ce qu'on en fait si on en arrive à cette situation, justement? Est-ce qu'il y a des démarches qu'on peut entreprendre? Vers qui on peut se tourner dans ces cas-là?
Alors, moi, je pense que dans un premier temps, il est très important de se tourner vers les services sociaux, hein, parce que quand on a des difficultés dans son logement, les services sociaux ont tout un ensemble de démarches, d'outils à leur disposition pour aider les personnes à résoudre leurs difficultés. Donc voilà, il faut aller voir les services sociaux. Donc ça peut être soit par le biais des mairies, dans les centres communaux d'action sociale. Même si vous habitez dans un petit village, il y a toujours un élu qui est en charge des affaires sociales. Il n'y a peut-être pas forcément de travailleur social professionnel dans la mairie, mais en tout cas, il y aura un relais d'information. On va peut-être vous aiguiller vers des permanences, que ce soit dans les maisons France Service ou autre permanence de travailleurs sociaux. Donc ça, c'est déjà une première approche. Après, on a aussi tous les travailleurs sociaux qui officient dans les centres médico-sociaux. Donc là, on va parler des travailleurs sociaux du département qui vont pouvoir, en fonction de votre situation, en fonction de votre budget aussi, hein, des ressources que vous avez à votre disposition, vous aiguiller vers soit de l'ouverture de droits. Donc on peut parler notamment du chèque énergie, on peut parler du fonds de solidarité logement. Donc ça, en fait, il s'agit d'un fonds qui est géré au niveau du département, qui permet d'aider les personnes qui sont en situation d'impayé, que ce soit pour leur loyer ou pour les factures d'énergie. On a tout un ensemble de dispositifs aussi pour les personnes qui sont vraiment dans une situation de mal logement. Donc on a le fichier des mal logés. On peut avoir une assistance pour la recherche de logement. Donc il faut pas se dire que c'est pas pour soi, en fait. Les travailleurs sociaux, bah, quand on a une difficulté dans la vie, ils sont là pour ça. Il faut pas hésiter à recourir et ça peut arriver à tout le monde, encore une fois, hein, d'aller voir les services sociaux. Après, donc, on a aussi tout un ensemble de structures qui existent sur le département qui peuvent faire du conseil au grand public. Alors, tout à l'heure, j'évoquais l'ADIL, par exemple, qui est une association qui fait du conseil en droit du logement. Donc là, il s'agit vraiment de conseils juridiques. Donc, c'est des personnes qu'on peut aller voir, bah, notamment quand on est locataire, qu'on a des difficultés avec son propriétaire bailleur. C'est aussi des personnes qu'on peut aller voir si jamais on a un projet d'achat, si jamais on est un propriétaire occupant et que on a des difficultés avec un certain nombre de démarches, notamment dans la rénovation. Enfin voilà, ils tiennent des permanences très régulièrement. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement pointus et qui sont capables de rendre intelligibles des textes juridiques qui sont pas toujours très transparents pour le grand public. Donc l'ADIL, c'est un acteur qui est extrêmement intéressant à connaître. Après, on a aussi tout ce qui est organismes qui vont intervenir dans le champ de la rénovation énergétique, hein. Donc on pourrait notamment parler des espaces France Rénov. C'est des services, en fait, qui sont publics, entièrement gratuits, et qui vont permettre d'apporter aux gens du conseil sur les financements accessibles pour réaliser des travaux, qui vont pouvoir apporter un petit peu de conseils techniques. Donc tout ça, voilà, il y a toute une myriade d'organismes aujourd'hui qui permettent d'aider les personnes sur la question du logement. Après, bon, évidemment, ça reste des démarches qui peuvent sembler parfois extrêmement compliquées. Et donc, il ne faut pas hésiter aussi à, ben voilà, si on se sent un petit peu dépassé, hein, je veux dire, c'est vrai que la question de la rénovation énergétique, et puis d'une manière générale, la gestion de l'énergie dans son logement, ben, c'est pas toujours si simple que ça, hein. Lire une facture d'électricité, c'est des fois, on n'y comprend rien. C'est vrai qu'elles sont souvent un petit peu compliquées. Et c'est là que nous, donc Énergétique 04, on peut intervenir parce que donc depuis plusieurs années, On développe en partenariat avec le conseil départemental, avec la caisse d'allocation familiale et également avec la direction départementale des territoires. Donc on développe tout un ensemble de missions un petit peu complémentaires à toutes ces institutions qui visent justement à faciliter la mise en place des solutions qui existent. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser les situations, y compris les capacité des ménages à se saisir des solutions et derrière à apporter l'accompagnement approprié pour que les ménages puissent vraiment mettre en place les solutions qui sont adaptées à leur situation. Donc on a plusieurs missions qu'on porte hein, donc en partenariat avec avec l'ensemble des institutions que je viens de citer. La première de ces missions, c'est ce qu'on appelle le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, donc en abrégé on dit SLIM. Donc en fait ça c'est un programme qui est national, hein, qui existe à plusieurs endroits en France et dans les Alpes-de-Haute-Provence c'est le département, le conseil départemental qui a souhaité mettre en œuvre ce service sur le territoire. Il s'agit en fait d'un dispositif qui vise à déjà faciliter le repérage des situations de ménage en précarité. Donc en fait là-dessus nous on a tout un ensemble d'interventions auprès des partenaires, donc des services sociaux, des différents organismes que j'évoquais jusqu'à maintenant pour leur expliquer ce qu'on fait, diffuser de l'information, expliquer comment on nous contacte. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse proposer nos services aux personnes qui pourraient être en situation de précarité. Deuxième étape, ça va être de réaliser un diagnostic de chaque situation. Donc dans le cadre de ce service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, nous on va venir au domicile des personnes qui sollicitent notre aide dans l'idée de réaliser un diagnostic. Donc c'est un diagnostic qui va être à la fois technique, c'est-à-dire qu'on va regarder l'état du logement, quelles sont les difficultés techniques qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a une absence d'isolation, est-ce qu'il y a un problème de sécurité électrique, est-ce qu'il y a un problème d'humidité, est-ce que un petit peu tous les aspects techniques du bâtiment. Et on va également avoir une analyse de la situation socio-économique du ménage. Donc on va, en fonction des cas, être amené à se renseigner un petit peu sur le budget du ménage, voir quelles sont les ressources. Est-ce qu'il y a des droits qui ne sont pas ouverts, auquel cas on va réorienter derrière vers les organismes adaptés pour résoudre la situation. Et c'est sur la base de ce diagnostic que nous, on va proposer un plan d'action. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire au ménage quelles sont les possibilités qu'il a pour pouvoir améliorer sa situation. Donc en fait, c'est vraiment un plan d'action qui va être personnalisé, vraiment basé sur ce qu'on a pu observer dans le logement. Et en fonction des cas, on va réorienter vers les différents organismes qui sont adaptés. Et même, on peut même encore aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si on a des ménages qui se sentent pas en fait vraiment de mettre en œuvre les préconisations qu'on a adaptées. C'est vrai que des fois, on va dire il faut appeler une entreprise pour faire l'isolation de vos murs. Certaines personnes, c'est un petit peu compliqué parce qu'elles osent pas trop, elles ont jamais fait, elles ont pas l'habitude. Dans ce cas-là, nous, on peut aussi passer du temps avec le ménage pour les accompagner dans ces démarches-là. Et tout simplement les aider à consulter l'entreprise, à recevoir l'entreprise, à relire les devis, parce qu'après, c'est aussi, une fois qu'on a trois devis, lequel je choisis, c'est pas forcément évident non plus. Bon, donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on va pouvoir accompagner pour pouvoir concrétiser justement cette démarche d'amélioration du logement. Donc ça, c'est le premier service qu'on propose, service local d'intervention par la maîtrise de l'énergie. Et nous, chez nous, on a deux personnes qui se chargent de faire ces visites à domicile, qui s'appellent Stéphane et Thierry. Et donc, si jamais vous faites appel à nous, on pourra vous envoyer soit Stéphane, soit Thierry, qui viendront vous rendre une petite visite pour dérouler un petit peu tout ça. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on peut aussi intervenir directement sur la réalisation de travaux. Donc là, on a un deuxième dispositif qu'on développe avec nos partenaires qui s'appelle l'auto-réhabilitation accompagnée. Alors, qu'est-ce que c'est l'auto-réhabilitation accompagnée? En fait, c'est un processus dans lequel nous, on va accompagner des personnes qui souhaiteraient faire des travaux dans leur logement, mais qui souhaiteraient les faire elles-mêmes. L'idée, c'est en fait de vous permettre de vous investir dans la réalisation de travaux dans votre logement, même si vous n'avez pas de compétences, même si vous n'avez pas de matériel, parce qu'en fait, ça, c'est nous qui allons la porter. Et dans notre équipe, on a deux techniciens qui sont donc des ouvriers spécialisés du bâtiment, qui peuvent intervenir sur quasiment tout le second œuvre. Hein. Donc, quand on parle de second œuvre dans le bâtiment, en fait, c'est tout ce qui touche pas à la structure du bâtiment. Donc, ça va être les travaux d'électricité, les travaux de plomberie, d'isolation, de plâtrerie, remplacement des menuiseries. Ça peut être aussi intervention sur les systèmes de chauffage, la ventilation aussi. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir. Et c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir même si on n'est pas particulièrement compétent. Parce qu'en fait, nos techniciens, donc nous, on parle d'animateurs en auto-réhabilitation accompagnée. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous expliquer comment on s'y prend. Ils vont vous montrer les différents gestes qu'on doit appliquer. Et chose qui est très importante aussi, c'est que les travaux qui sont réalisés dans ce cadre-là, en auto-réhabilitation accompagnée, ils bénéficient d'une assurance décennale comme n'importe quel travaux qui serait réalisé par des artisans. Nous, on a une assurance décennale qui permet de couvrir ces travaux qui sont réalisés en auto-réhabilitation accompagnée. Donc ces travaux en auto-réhabilitation accompagnée, ils peuvent permettre de résoudre des problèmes de sécurité dans le logement, un système électrique qui est un petit peu dangereux, ou un problème de plomberie, un gros problème d'humidité, ça c'est des choses qu'on peut résoudre comme ça. Et ça peut également permettre de traiter des situations de rénovation énergétique, donc là on va parler d'isolation, on va parler de remplacement de système de chauffage dans l'idée de diminuer les charges énergétiques du logement. Donc c'est vraiment, on travaille sur ces deux axes-là par le biais de l'auto-réhabilitation accompagnée. En fait, ça permet aussi tout simplement de traiter des situations en diminuant les coûts, puisqu'à partir du moment où une personne intervient dans son propre logement, ça fait de la main-d'œuvre en moins à payer. Donc ça permet aussi de mettre en place plus de choses avec des budgets un peu moins. Voilà. Puis après, ça permet aussi de former les gens, tout simplement. Imaginez, par exemple, que vous ayez une prise qui soit cassée chez vous. Bon, c'est à vous de la remplacer, même si vous êtes locataire, c'est au locataire d'entretenir ses prises électriques. Il y a plein de gens qui ne savent pas le faire. En auto-réhabilitation accompagnée, on va venir, on va vous montrer comment on fait. Comme ça, la prochaine fois qu'il y a une prise qui casse, vous serez autonome et vous pourrez le faire aussi directement. Et en toute sécurité, surtout, c'est ça qui est important. En marge de l'auto-réhabilitation accompagnée, nous on a aussi ce qu'on appelle le fonds d'aide aux petits travaux. Donc c'est une enveloppe financière qui va permettre de financer le matériel qu'on va utiliser en auto-réhabilitation accompagnée. Donc il y a aussi des aides financières qui sont associées à ces travaux-là. Et évidemment c'est sous condition de ressources. Il faut respecter certains critères de ressources pour bénéficier de ces aides-là, mais ça aussi c'est des choses qu'on peut mobiliser. Et en fait, donc ça c'est financé aujourd'hui par le conseil départemental, par la Fondation Abbé Pierre aussi, qui est un de nos partenaires, qui permet comme ça de fournir une aide financière aux ménages qui sont le plus en difficulté. Et enfin, dernier dispositif sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle la médiation logement. Donc là, c'est dans le cadre de difficultés à payer ses factures d'énergie. Dans notre équipe, on a une conseillère en économie sociale et familiale qui peut intervenir au logement des personnes de manière à déjà, première chose, mettre en place une médiation avec les fournisseurs d'énergie pour éviter la restriction d'énergie et derrière assainir la situation financière. Donc ça va être en négociant un échéancier avec le fournisseur d'énergie, en intervenant aussi auprès de la commission FSL pour mettre en place la solution la plus adaptée en termes de financement. Et puis aussi derrière avoir un conseil sur les démarches à entreprendre. Donc ça peut être une réorientation vers service local d'intervention vers la maîtrise de l'énergie. Ça peut être un recours aux épiceries sociales. Ça peut être une inscription sur le fichier des mal logés. Enfin voilà, il y a un peu tous les dispositifs existants pour les travailleurs sociaux qui peuvent être mobilisés dans ce cadre-là aussi.
Et alors, si on veut faire appel à vous et à ce type de service, comment on peut vous contacter? Comment ça se passe?
Alors, le plus simple, c'est de passer par un travailleur social, donc s'adresser à un CCAS ou à un travailleur social dans un CMS, qu'on rencontre régulièrement et qui sont informés de nos activités. La porte d'entrée, ce sera une intervention du service SLIM. La plupart des travailleurs sociaux, ils ont donc connaissance de notre disposition. Ils ont à leur disposition une petite fiche de liaison qui leur permet de signaler des situations à notre équipe. Après, c'est aussi possible de nous solliciter directement, de préférence par mail. Donc, il y a un mail tout simple, c'est slime@ener04.com qui permet de nous solliciter pour une intervention à domicile. Donc on sera peut-être amené justement à vous renvoyer cette fiche de liaison pour avoir un petit peu tous les renseignements qui permettent d'intervenir chez vous. Bon, on a aussi un numéro de téléphone. Après, je vous cache pas que nous, c'est parfois un petit peu compliqué de suivre les messages sur la liaison téléphonique parce qu'on a une toute petite équipe. Mais bon, voilà, je vous donne le numéro de téléphone quand même, si c'est le moyen que vous préférez. C'est le 04 86 49 18 95. Et pareil, donc là, on pourra vous rappeler, même si c'est pas le moyen, voilà, c'est pas le moyen le plus évident. Le mieux, ça reste encore de contacter un travailleur social, d'aller lui expliquer les difficultés que vous éprouvez dans votre logement et de parler, voilà, du service LIM d'Énergétique 04 et comme ça, on pourra intervenir chez vous.
Et est-ce qu'il y a des événements où on peut vous rencontrer ou des événements que vous souhaiteriez annoncer concernant Énergétique 04?
Oui, bah effectivement, il y a un événement qui arrive, hein, le 7 juin, c'est le jour de notre Assemblée Générale. Et cette année, donc, l'Assemblée Générale, elle se tiendra à Vollone, à l'espace Notre-Dame. C'est quelque chose qui est assez ouvert, hein, donc faut pas hésiter à venir. Cette année, on fait justement une petite exposition sur la précarité énergétique. Et donc, heureuse coïncidence aussi cette année, c'est que notre Assemblée Générale, elle tombe au même moment que le Festival de la Bière à Vollone. Voilà, c'est la troisième édition de Festibière, le 7 juin à Vollone. Et donc, vous pourrez nous y rencontrer.
Merci beaucoup François, donc directeur de Énergétique 04. On rappelle que pour vous contacter, le meilleur moyen, c'est de passer par un mail. Je rappelle l'adresse mail, c'est slime@ener04.com pour vous contacter. Merci pour ce point sur la précarité énergétique, la solidarité énergétique. Donc on rappelle que voilà, il faut savoir qu'il y a des solutions qui sont possibles et pas hésiter à se tourner vers les différents acteurs et partenaires que vous avez pu mentionner dans cette émission. Merci à vous et donc on se retrouve le 7 juin à Vollone pour l'AG. Et sinon, on vous retrouve aussi sur, il y a une page Facebook, mais voilà, on rappelle aussi que le moyen le plus pratique, c'est par mail.
Super, merci.
Merci et bonne journée.